Amen. Que notre Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de nous tenir en ce lieu. C'est notre Père que nous aimons tous et qui nous a fait la grâce de le connaître et surtout de connaître Jésus-Christ, le chemin qui mène à lui. Aujourd'hui, notre partage va porter sur les difficultés que nous rencontrons tous les jours de notre vie, à travers toutes les décisions que nous sommes appelés à prendre, à travers les pressions qui sont sur nous. Et le monde nous pousse à agir, à prendre des décisions, peut-être à la hâte. Et quelquefois, nous pouvons être enveloppés par des pensées, par des choses, et qui nous poussent encore à agir. Mais nous savons que notre Père a déjà tout prévu pour nous. Il a tout fait pour nous. Et tout à l'heure, dans l'un des chants qu'on a chanté, on a parlé, c'est El Shaddai. On a dit qu'il a cru. Même Ésaïe 53 nous parle de la même chose. À son temps, lorsque Jésus-Christ apparut, ses contemporains n'avaient pas cru en lui. Ils n'avaient pas compris que c'était le chemin de Dieu pour les sauver. Et l'un des titres de Jésus-Christ dans Ésaïe 9, verset 5, on nous dit... C'est Jésus-Christ, on l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. Mais surtout, sur l'aspect conseiller, Jésus-Christ est venu nous donner le véritable conseil, le chemin qui nous permet d'éviter les différents pièges auxquels nous sommes exposés à travers les décisions que nous avons à prendre. Que ce soit les moindres décisions et les décisions importantes, Jésus est là à notre côté pour nous guider, pour ne pas que nous tombions dans ces pièges, pour ne pas que nous entrions dans les voies de tourment. Nous allons tout de suite lire dans Jean chapitre 10. C'est un passage que nous connaissons, mais nous allons voir, ça va rejoindre aussi l'un des cantiques que nous avons chantés. Jean chapitre 10, à partir du verset... Bon, on va commencer au verset premier. Jésus, qui est présenté ici comme le bon berger, celui qui est appelé à nous conduire dans le vrai chemin, le chemin de la paix. Nous lisons. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brigands, des brebis, pardon. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Donc déjà au verset 3, bien aimé, nous voyons la mission que Jésus-Christ est venu accomplir auprès des Juifs. Il était venu pour les sauver, pour leur montrer le vrai chemin. Il dit maintenant le chemin c'est moi. Et on nous dit bien ici, on voit bien un personnage, hein, on nous dit le portier lui ouvre. Mais qui est le portier ici? Si ce n'est que notre Père par le biais de son esprit qui vient parler à notre cœur. Il a voulu parler au cœur des Juifs à l'époque, mais ils n'avaient pas compris. Et que fait Jésus? Mais nous savons que notre Père a incliné nos cœurs à ce divin berger-là. Nous avons su entendre, nous avons pu entendre sa voix. Nous l'avons entendu. Et qu'a fait Jésus? Il nous dit, il les conduit. Il appartient, je reprends le verset 3, au milieu, on nous dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc toi, ma sœur, mon frère, Jésus t'a appelé par ton nom pour te faire sortir. Nous connaissons la définition de l'Église, c'est appeler hors d'eux. Et Jésus, qui est le maître, l'époux de l'Église, il ne peut que sortir l'Église de ce monde, de ce tumulte, de ces ténèbres qui nous environnent. Il fallait bien qu'il nous sorte de là. Et les Juifs n'ont pas accepté cela. Et nous sommes sortis avec Jésus, verset 4. On dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. à un moment donné, nous avons compris, parmi toutes les voix que nous entendions, nous avons identifié une seule voix, la voix du bon berger, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, et nous nous sommes mis à le suivre. Nous avons marché après Jésus-Christ. Et le verset suivant. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, loin de l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers, bien-aimés. Il y a plusieurs voix que nous entendons par-ci, par-là. Mais le Seigneur nous a accordé la grâce de déceler la lumière qui éclaire le monde. Nous ne suivons que cette lumière-là. Nous ne connaissons plus les étrangers. Nous savons identifier les étrangers maintenant, bien-aimés. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule voix qui doit nous guider, la voix du bon berger. Et nous le suivons avec joie, bien-aimés. Et Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Dans ce groupe-là, en fait, il y avait des pharisiens. Hein, il y avait des pharisiens. On dit, ils ne comprenaient pas. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Bien, on voit bien la première, la différence. Au début, il y avait une bergerie et le portier a ouvert la porte pour que le divin berger sorte ses brebis. Mais maintenant, il dit, mais je suis la porte des brebis. Je suis maintenant la porte, pas la porte de la bergerie, hein, mais la porte des brebis. On continue. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Nous allons nous arrêter là, sur cette partie. Je relis le verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voici le premier point, Jésus nous dit, mais si tu viens à moi, si tu entres par moi, tu auras le salut de ton âme, c'est certain. Mais la suite, il nous dit, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc, tu vas entrer, mais tu ne vas pas rester dans un lieu fermé, comme la bergerie. Il dit, mais tu vas sortir. Mais tu vas sortir pour trouver quoi ? Des pâturages. Les pâturages ici, l'image des pâturages, en fait, ce sont les abondantes bénédictions spirituelles que Dieu tient en réserve pour nous, bien-aimés. Dieu veut nous instruire. Et nous savons que nous avons sa parole qui nous instruit. Nous avons peut-être les conseils, peut-être des aînés, la vie des aînés dans la foi qui sont là pour nous entretenir, pour nous donner des modèles pour avancer. Et nous savons, Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu nous enfermer. Non, non, il est venu nous affranchir, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il nous a appelés à la liberté. Il nous a appelés à la liberté. Mais cette liberté-là, nous devons y prendre garde. Parce que la liberté peut être aussi une occasion de chute pour nous. Notre exhortation de ce matin, je l'ai intitulée « Entrer et sortir et surtout demeurer ». Amen. Nous devons entrer par Jésus. Mais Jésus nous laisse sortir. Il ne nous laisse pas sortir dans un environnement où il n'y a rien. Il met à notre disposition des pâturages qui sont des bénédictions spirituelles. Et quitte à nous de nous en saisir, de nous nourrir de toutes ces bénédictions-là, afin de faire sa volonté. Éphésiens 2, nous allons lire aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous savons que dans les versets précédents d'Éphésiens, on nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. Éphésiens 2, 10. Nous allons voir l'objectif de Dieu. Pourquoi il a fait cela ? Nous qui sommes déjà entrés, nous qui avons pu trouver la porte, Il nous dit ceci, Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage. J'attends que... Est-ce que tout le monde a trouvé ? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voici l'objectif de Dieu, Dieu qui nous a créés. Il ne s'agit pas de la création physique. Nous avons tous compris, bien-aimés, c'est la création spirituelle. Nous qui sommes entrés par cette porte, nous sommes sortis, les pâturages sont là. Et l'objectif de Dieu à travers nos vies, c'est pour que nous pratiquions quoi ? Les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. Les œuvres sont déjà disponibles et notre Père il dit, ce ne seront pas les païens qui vont pratiquer les œuvres de Dieu. Pas du tout. Il veut que ce soit nous, ses enfants, les représentants de Jésus-Christ, qui pratiquions en fait ces œuvres-là. Mais pour quel but ? Pour que le monde qui nous environne, pour que les ténèbres qui nous environnent identifient la lumière, voient qu'en nous il y a la lumière, qu'il y a quelque chose de différent, qu'ils ne sont pas habitués à voir et que cela les attire. Voici l'objectif de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas pour que nous fassions juste des bonnes œuvres pour notre gloire. Non, c'est pour la gloire de notre Père. Mais pour pratiquer ces bonnes œuvres-là, nous avons besoin d'être comment ? Attachés à notre Seigneur, bien-aimé. Quelquefois, nous découvrons la vérité, nous marchons avec Jésus, mais au fil du temps, qu'est-ce qui se passe ? Quelquefois, nous nous relâchons. Quelquefois, nous prenons appui sur nos connaissances, notre expérience. Et nous avons du mal à consulter Dieu de façon régulière, à prendre du temps avec notre Seigneur. Nous nous souvenons dans Luc 6, 12, si je ne me trompe, Jésus, lorsqu'il devait choisir ses disciples, qu'est-ce qu'il avait fait pour tout nous le savons tous. Il a pris du temps. Mais je le rappelle aussi, c'est dans le livre de Luc, où Jésus est présenté comme étant le fils de l'homme, c'est-à-dire l'homme parfait. C'est, l'évangile est axé sur ce point-là, l'homme. C'est l'évangile dans lequel Jésus, on a évoqué à plusieurs reprises les situations où Jésus a prié, bien-aimé. Nous savons que la prière, mais c'est la communion avec notre Dieu, mais ça exprime aussi la dépendance vis-à-vis de notre Dieu. Et quelquefois, nous oublions ces temps-là. Et cela ne nous est pas salutaire, bien-aimé. Notre objectif, l'objectif de l'exhortation ce matin, c'est de nous amener à prendre conscience qu'il nous est salutaire de demeurer dans le Seigneur. Nous sommes vraiment dans le pâturage du Seigneur. Nous profitons de ces choses-là, mais n'oublions pas que le divin berger, il est toujours là. Et il a besoin que nous le sollicitions de façon régulière pour ne pas nous tromper. Nous venons de lire dans Éphésiens 6, 10. Je le relis. Dieu nous a créés. Nous sommes l'ouvrage de ses mains, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes passés par Jésus, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, pour que le monde observe. Nous avons un bien-aimé que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est David, hein, qui pour moi est un modèle. Même si à un moment donné, en tant qu'être humain, il a commis des erreurs que la Bible n'a pas cachées, mais on dit c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et moi, mon rêve, parmi ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, plus tard, j'aimerais bien voir ce monsieur-là. C'est la personne que j'aimerais bien voir au ciel, ceux qui sont nés d'hommes et de femmes. Et nous allons voir le comportement que ce monsieur, notre bien-aimé, va avoir ici. Je l'appelle monsieur parce que c'est un illustre homme. Il mérite beaucoup de respect. Nous allons lire, bien-aimé, dans 2 Samuel chapitre 5. De Samuel 5, à partir du verset 17. nous lisons. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Donc, on le voit, bien-aimé, à chaque fois qu'il y a un changement dans ta vie spirituelle, mais l'ennemi ne manquera pas de renouveler ses assauts, ses attaques. Nous avons tous vécu cela. Il ne va pas, jusqu'au retour du Seigneur, l'ennemi va continuer à tenter des choses contre nous. À chaque fois que tu prends une bonne décision, à chaque fois que le Seigneur permet quelque chose dans ta vie, une situation heureuse dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi, il va se pointer. Il va essayer de te déstabiliser. Et on voit maintenant que notre bien-aimé a été un roi. Les Philistins, n'oublions pas que les Philistins, en fait, ce sont, on parle des ennemis de l'intérieur, parce que c'était le territoire qui revenait à Israël. Et ils n'ont pas été chassés. Et c'était les plus grands ennemis d'Israël. Ils combattaient vraiment ce peuple-là. Et le verset 18, on nous dit, « Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. » Verset 19, « David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Amen. Dieu a préparé d'avance, il a préparé les œuvres pour que nous les pratiquions. Et David, nous n'oublions pas, hein, il fut un contexte avant cela, il était, savant qu'il avait fui, il avait des vaillants guerriers avec lui, et c'est quelqu'un qui était vraiment rompu à la guerre. Il aimait combattre, mais il aurait pu se lever et aller affronter directement les Philistins. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en remet à Dieu, bien-aimé. Il consulte Dieu. On voit bien, c'est un grand événement, mais le rappel, c'est que dans les grandes, comme dans les petites choses de notre vie, prenons le temps ou la peine de consulter notre Dieu. Et Dieu qui a préparé, il sait l'issue de toute chose, il va nous dire, fais, ou bien ne fais pas. Et dans le cas de David ici, il va dire, mais vas-y. Et David a bien précisé, hein, il a bien dit, mais est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Donc en réalité, il ne prend pas appui sur son expérience au combat. Il sait que la victoire appartient à l'Éternel. Si l'Éternel ne donne pas la victoire, il ne la remportera pas, il ne remportera pas la guerre. Et David, il a consulté notre Dieu. Et que dit Dieu dans ce cas? Il a dit, vas-y. Verset 20, David vint à Baal-Pératim, où il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Donc on voit bien la réaction de notre bien-aimé. Cette victoire qu'il vient de remporter, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis. Quelquefois nous pouvons réussir certaines choses. Nous savons que, ça peut être humainement parlant, nous avons l'impression que ce sont nos forces qui nous ont permis de réussir cela. Mais, bien-aimés, renonçons à ces genres de choses, parce que cela guette tout le monde, hein? Cela guette tout le monde. On peut penser que c'est grâce à notre intelligence, grâce à notre argent que j'ai pu acheter ceci, etc. Non, c'est Dieu qui nous accorde toutes choses. Et nous devons être promptes à redonner tout de suite à Dieu la gloire de ce qu'il accomplit dans nos vies. N'hésitons pas. Et cela, nous devons le faire de façon publique. Même si nous le faisons aussi en secret, nous devons le faire de façon publique. Que les gens qui sont autour de nous, qui voient la victoire, la bénédiction, certaines choses qui nous arrivent, que nous crions tout haut, bien-aimés, aux personnes, que c'est Dieu qui a validé cela. C'est Dieu qui a accordé cela. Et notre Père sera ainsi honoré et il aura une grande joie à nous bénir davantage, à nous donner davantage, pour que la gloire, nous continuions à lui rendre gloire. Telle est la volonté de notre Dieu. Et nous voyons aussi l'humilité qu'a manifesté notre bien-aimé. Hein. Je dis, il était fort, il était habitué au combat, mais il a bien dit, dans son humilité, que c'est Dieu qui l'a béni. Le verset suivant, verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau. Donc on voit, c'est une nouvelle attaque, une nouvelle guerre. Montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Que fait notre bien-aimé? On dit, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. On a vu le premier cas. Hein? Lorsque David a consulté l'Éternel, l'Éternel a dit, mais vas-y, fais dans ce sens-là. Et dans le deuxième cas, lorsqu'il a consulté l'Éternel, humainement parlant, il aurait dû s'attendre à ce que le Seigneur dit, vas-y. Mais on voit bien, nous savons que les ressources de Dieu sont infinies. La sagesse de Dieu est infinie. Et notre Dieu, dans ce cas, va lui dire quoi? Il lui dit, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Donc, l'Éternel lui donne un nouveau chemin, une nouvelle stratégie. Et la suite, on nous dit, verset 24, « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Quel enseignement peut-on tirer de ces passages-là? J'aime particulièrement, en lisant ce passage, je l'ai aimé particulièrement, bien aimé. Verset 24, je relis. Hein. On dit, « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre. » Donc nous voyons ici, on lui dit de faire le tour. Mais on ne lui a pas dit, tu fais le tour et tu attaques. Non, tu fais le tour et tu attends. Amen. Tu attends. Donc quelquefois, le Seigneur peut nous faire avancer, mais il peut nous demander à un moment donné d'attendre. Si nous n'attendons pas, quelquefois nous pouvons être en position de force, bien-aimés. Nous pouvons remporter la victoire, bien-aimé. Nous pouvons acheter la chose en question. Humainement, nous avons la capacité. Je l'ai dit, David ici, c'était un vaillant guerrier. Et je crois qu'il était, il était prompt à aller affronter. Mais le Seigneur dit, tourne-toi et attends. Donc on voit bien l'humilité que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à manifester devant notre Père. Les œuvres que Dieu veut faire sont nombreuses et il veut les faire passer par nous, bien-aimés. Nous sommes des ouvriers avec Dieu, mais prenons le temps de faire quoi? D'écouter la voix de Dieu. Parce qu'il y a un verbe ici hein, qui fait appel à l'écoute. On nous dit, verset 24, on dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers. Comment allons-nous entendre ces bruits-là lorsque nous sommes dans des situations de décision où nous voulons passer à l'action? Mais nous savons que nous n'avons qu'une chose. D'abord, la parole de Dieu que nous devons chérir, bien-aimés. Je l'avais dit au début, notre exhortation, c'est entrer par Jésus, sortir pour être libre dans ce monde, mais surtout demeurer avec celui par lequel nous sommes passés. Demeurer et écouter sa voix. Et j'avais donné l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui à plusieurs reprises, étant homme, il passait beaucoup de temps à prier, à entendre la voix de son Père, à dépendre de son Père. Et là, Il y a deux attitudes que nous venons de constater ici. Il y a d'une part, David, le bien-aimé, il a manifesté quoi ? La dépendance vis-à-vis de son Dieu. Parce qu'il n'a pas forcé, hein, il a attendu. Un. Et de deux, il nous est dit par la suite, au verset 25, on nous dit, David fit quoi ? Ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il n'a fait que ce que le Seigneur a dit, mais fait. Comme ça et comme ça. Il n'a fait que ça. Et nous connaissons la suite. Lorsque nous obéissons à notre Dieu, la suite ce n'est que la victoire. Amen. Ce n'est que la victoire. Car le Seigneur sait, il veut toujours donner gloire à son nom. Il veut toujours qu'il soit élevé dans nos vies. Il veut que les gens qui nous entourent aussi observent que nous marchons avec pas, ce n'est pas un homme sur lequel nous prenons appui, mais que c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu Créateur, pour que les cœurs soient tournés vers ce Dieu-là qui veut sauver tout homme. Et nous voyons bien l'obéissance de notre bien-aimé, la dépendance. Ces deux choses-là, nous devons, bien-aimé, nous évertuer à les acquérir, à les pratiquer. La dépendance vis-à-vis de Dieu. Quiconque prend la chair pour appui est en difficulté. Nous connaissons tous ce verset. Maudit quiconque prend la chair pour appui et se détourne de l'Éternel, son Dieu. Et les pâturages aussi en question, je le dis, ça peut être aussi pour nous une occasion de chute ou d'affranchissement vis-à-vis de ce Père qui veut continuer avec nous. Quelquefois, nous engrangeons des connaissances. Nous accumulons de l'expérience avec ce Dieu-là. Et on peut se dire, mais vu que telle fois, Dieu agit de cette façon, telle autre fois, Dieu agit de cette façon, certainement là, voici le chemin que je dois appliquer. Or, nous voyons ici, Dieu n'est pas dans la routine, dans les habitudes. Dieu a plusieurs stratégies. Il n'attend qu'une chose de notre part, mais c'est que nous lui soyons totalement soumis. Et ce bien-aimé de Dieu, notre bien-aimé, il n'a pas toujours été, je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il a fait preuve aussi de relâchement vis-à-vis de ce Dieu. Nous allons voir juste un seul exemple. Et cela doit nous instruire aussi, bien-aimé. Et c'est toujours dans 2 Samuel 5, hein. 2 Samuel 5, on a commencé à lire à partir du verset 17. Mais juste au verset 13, si nous lisons, il nous est dit ceci. David prit encore, 2 Samuel 5, 13, David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu à Hébron et qu'il naquit. Et il lui naquit encore des fils et des filles. En lisant ce passage, il y a un mot qui nous a certainement interpellés, bien-aimés. On dit David prie encore. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, tu dis encore. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal là, bien-aimé. Il y a quelque chose d'anormal. Et que le divin berger, le divin scripteur, a voulu nous révéler. En regardant encore, nous pouvons constater que ceux qui ont la Bible, les Bibles d'études, il y a un renvoi. Toujours dans 2 Samuel 3, versets 2 à 5. On va derrière 2 Samuel 3, versets 1 à 5. À partir du verset 2. On dit, il naquit à David des fils à Hébron. Là, il est à Hébron. Hein. Tout à l'heure, c'est maintenant, il est arrivé à Jérusalem, hein, à Hébron. Son premier-né fut Amon d'Akinoam de Jisraël. Le second, Kileam, d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maka, fils de Talmaï, roi de Guershour. Le quatrième, Adonija, fils de Hagit. Le cinquième, le sixième, et Egla, femme de David, ce sont là ceux qui naquirent à David, à Hébron. Donc là, on vient de voir ici Ce qu'on a remarqué, c'est que il y a déjà plusieurs femmes qui sont là, qui sont citées. Et c'est la remarque qu'on peut déjà faire à Hébron. Et il va jusqu'à sixième. Hein, il va là-bas. Qu'est-ce qu'il prend? Il va prendre encore des femmes et des concubines. Mais lisons bien aimé dans Deutéronome 17:17. Nous allons voir ce qui est dit ici. Deutéronome 17:17. Nous lisons. Donc voilà, ce sont des instructions qui sont adressées au roi, tous les rois qui doivent succéder au trône. 17:17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, il parle de ce roi-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre. Voilà, le verset 18. Donc le verset 17, ça passe. Déjà, c'est quelque chose que David, il devait faire attention à cela. Bon, au verset 18. On dit, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, c'est-à-dire de ce que vient de dire notre Dieu, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Enfin, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Voici l'instruction qui a été donnée ici. Le roi, il devait faire une copie de la loi, de cette instruction. Notre Père a dit, tu ne dois pas avoir beaucoup de femmes. Dieu sait pourquoi. Et nous savons que par la suite, nous avons connu des cas, hein, Absalom. Il est né de l'une de ces femmes-là. Il y a eu vraiment des scandales dans sa famille. L'un de ses fils qui est parti coucher avec l'une de ses femmes. Dieu sait pourquoi. Prenons l'habitude, bien-aimés, de consulter Dieu dans tous nos projets, tout ce que nous voulons faire. Disons à Dieu, voici cette voie qui est devant moi. Voici cette action que je veux mener, mais je ne veux pas y aller sans toi. J'ai besoin de toi. Si ce n'est pas ta volonté, merci de me barrer la route. Amen. Demandons à Dieu de barrer la route et de nous révéler d'une façon ou d'une autre la voie qui est la sienne. Révéler la voie, un. Et de deux, révéler les moyens pour atteindre. Parce qu'on l'a vu aussi ici, hein. Il y avait la victoire que Dieu avait promise à David dans le cas des Philistins. Mais le moyen d'y arriver, Dieu a dit, mais c'est moi qui vais battre les Philistins à ta place. C'est moi qui vais marcher devant toi. C'est ce que nous avions lu tout à l'heure, bien-aimé. Dieu veut combattre pour nous. Dieu veut que nous entrions vraiment dans la paix. Que nous soyons vraiment dans la paix, bien-aimés. Nous l'avions chanté tout à l'heure. C'est le divin berger et il veut nous accorder la paix du cœur. Prenons appui sur ce maître-là qui nous aime tant, qui a livré sa vie pour nous. Et il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Mais pour suivre le bon berger, il ne s'agit pas de rester dans la masse. Nous l'avions entrevue à travers l'histoire de David, il a dit aussi, il faut tendre l'oreille, il faut écouter. Il y a tellement d'informations qui arrivent sur nous, qui nous poussent, je l'ai dit en introduction, qui nous poussent à agir, peut-être précipitamment. Et notre Seigneur veut nous dire, stop, arrête-toi, repose-toi. Comme il a dit à David, c'est moi qui vais donner le top. Je veux bien accomplir la chose dans ta vie, mais laisse-moi faire. C'est ce que le Seigneur a voulu dire à David. Et David lui a laissé la main. Et nous voyons le reste. C'est quelqu'un qui connaît son Dieu. Nous savons qu'il avait évolué avec son Dieu. Lorsque Dieu l'avait choisi, lorsqu'il était encore jeune, il paissait le troupeau de sa famille. Dieu l'avait choisi. Mais après, il avait dit, avant d'aller combattre Goliath, nous connaissons l'histoire, il a cherché à convaincre maintenant Saül qu'il avait pris pour un jeune qui n'était pas aguerri au combat. Il a dit non, mais j'étais seul avec le troupeau de mon père et je déchirais la gueule de l'ours et même le lion aussi. Et par après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le Seigneur qui avait veillé sur moi, il va m'accompagner dans le combat que je veux faire. Donc le Seigneur, à un moment donné, il a marché avec toi, comme il a fait avec David. Il t'a donné des signes. Il t'a montré que c'est lui qui t'a donné tel conseil, qui t'a permis de sortir de telle ou telle situation. Mais par après, il faut continuer à témoigner ce qu'il a fait. Témoigner ce qu'il a fait, ce n'est pas juste raconter, mais c'est d'agir en fonction de celui qui te conduit. C'est surtout ça, de demeurer. Donc, depuis tout jeune, tout petit, jusque même là, dans cette histoire-là, David est resté obéissant, dépendant. Nous devons prier pour que notre Dieu nous aide à refuser les voix, les pressions qui viennent à gauche, à droite. Ça peut être même des bons conseils de nos proches. Mais nous avons lu dans Ésaïe, nous ne l'avons pas lu, hein, Ésaïe 9, 5 nous dit, Jésus est appelé quoi ? D'abord admirable, mais le deuxième qualificatif, on nous dit conseiller. Celui qui est disponible, il est toujours là à tes côtés. Il dit, mais que veux-tu que je... Nous nous souvenons de Bartimée, j'aime beaucoup la scène de Bartimée. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? Et Jésus est en train de te poser cette question-là ce matin. Que veux-tu que je fasse ? Le conseiller est là. Celui qui n'attend qu'une chose, que tu cries à lui, que tu lui demandes la direction à suivre. Il est là, bien-aimé. Il n'est pas là d'abord pour la masse. Il est d'abord là pour les individus. Amen. Avant la masse. Parce qu'on l'a dit, hein, on ne l'a pas commenté dans Jean 10. Jésus a dit, si quelqu'un, il n'a pas dit si vous, si quelqu'un entre par moi. Et même les versets précédents, qu'est-ce qu'il a dit? Il appelle les brebis comment? Par leur nom, de façon individuelle, bien-aimée. Mais ce bon berger, ce divin berger, glorieux, qui a tout créé, qui te connaît, toi qui es tout petit, moi qui suis tout petit, par ton nom. Mais que ne devrons-nous pas faire, bien-aimés, pour entrer dans ce repos de Dieu ? Refusons les options que la chair nous propose. Quelquefois, nous devenons forts, entre guillemets, par notre expérience, par ce que nous possédons, par notre connaissance. Entre guillemets, nous devenons forts. Mais Dieu veut que nous enfouissons tout cela et que nous disions à notre Père, « J'ai besoin de toi. Je veux entrer par toi, sortir pour être une lumière dans ce monde, mais pas prendre toute la liberté et aller loin de toi, mais demeurer dans tes pâturages et dépendre de toi, car c'est là la voie de la vie. » Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide tous. Qu'il nous aide tous. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci, toi le divin berger qui nous aime tant, d'un amour sans pareil. Nous l'avons lu. Tu es venu te présenter au peuple d'Israël qui ne t'avait pas compris. et tu nous as appelés, nous l'Église, hors de, c'est-à-dire de ce monde. Et tu nous appelles à passer par toi. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui, nous avons reçu le salut de notre âme. Mais Seigneur, le piège est grand devant nous, par la suffisance que nous pouvons manifester. Mais donne-nous, Seigneur, de ne pas nous tromper. Il y a de nombreux exemples, Seigneur, dans la parole. Fais-nous grâce. Accorde-nous, Seigneur, de dépendre de toi, de refuser la précipitation, de refuser l'expérience, la force que peuvent nous apporter certains avantages que nous pouvons avoir. Nous refusons cela. Et encore merci de nous conduire. Toi, le bon berger, nous nous attendons à toi. Toi, le bon berger, souviens-toi de ton peuple de façon individuelle. Toi, le bon berger, nous avons tous besoin de toi, Seigneur, pour accomplir les œuvres bonnes que tu as réservées d'avance pour nous. Et ce n'est que dans l'obéissance que nous allons agir. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen.